Bonjour à tous. Ça fait du bien d'être ensemble pour louer le Seigneur, pour l'adorer et pour nous arrêter aussi, pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Je vois qu'on n'est pas nombreux, mais nous sommes encore la période des vacances. Et c'est tout à fait normal. Les uns partent, les autres reviennent et l'Église... Pendant les périodes des vacances, on n'est pas nombreux, mais c'est rien, c'est normal. Alors, je pense à tous ceux qui travaillent et voilà qu'ils arrivent à leur dernier jour et puis c'est les vacances. Je crois qu'on est vraiment heureux, on est dans la joie, c'est la fête. Je me souviens quand j'étais... plus jeune, quand j'ai commencé à travailler, on faisait route avec un collègue qui est maintenant mon frère, un frère en Christ. Et les premières années, on faisait route ensemble. Et quand c'était notre dernier jour, au retour, on était dans la voiture et on criait de joie. Nous sommes en congé. Je me souviens quand les enfants ils étaient plus petits, également, quand c'était les congés, on chantait « Nous sommes en congé ». Maintenant, ils ne veulent plus le faire, mais je comprends. Ceux qui ont fini de travailler, et voilà qu'ils sont en retrait, en retraite. Leur dernier jour, également, ils sont heureux, j'espère. Heureux de savoir qu'ils ont fini de travailler. C'est une joie. C'est la fête. Chez nous, au travail, maintenant, il y a de moins en moins qui finissent de travailler parce qu'on va plus tard. Les années rallongent. Le gouvernement nous fait rallonger les années. Mais à chaque fois que quelqu'un termine de travailler, on prépare la table et on fait une fête pour cette personne. C'est quelque chose de bien. Ainsi pour les étudiants. Quand ils ont fini les études, ben c'est la fête. C'est la joie. On appelle tous les amis et on fait une fête. C'est normal. Ainsi pour tous ceux qui font des travaux dans la maison, après des années, voilà qu'ils ont fini les travaux. Et également, là, on appelle tout le monde et on fait la fête. On est heureux de savoir que c'est terminé. Et également, dans la parole de Dieu, nous voyons que Salomon a terminé le temple. Et voilà que c'est la fête. Et on va lire ce matin et on va s'arrêter dans 2 Chroniques au chapitre 5. On va lire tout le chapitre. 2 Chroniques, chapitre 5, les 14 versets.
Quand tous les travaux que le roi Salomon fit exécuter pour le temple de l'Éternel furent achevés, Salomon fit apporter les objets que son père David avait consacrés, l'argent, l'or et tous les ustensiles, et il les déposa dans les trésors du temple de Dieu. Alors, Salomon rassembla à Jérusalem tous les responsables d'Israël, tous les chefs des tribus et les chefs de famille des Israélites pour faire transporter le coffre de l'Alliance de l'Éternel depuis la cité de David, qui est Sion. Tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi pendant la fête des cabanes, qui a lieu au 7e mois. Tous les responsables d'Israël vinrent, et les Lévites se chargèrent de porter le coffre sacré. Les prêtres et les Lévites transportèrent le coffre, ainsi que la tente de la rencontre et tous les ustensiles sacrés qu'elle contenait. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël, rassemblés auprès de lui devant le coffre, offrirent en sacrifice un très grand nombre de petits et de gros bétails qu'on ne pouvait évaluer. Les prêtres installèrent le coffre de l'Alliance de l'Éternel à la place qui lui était destinée dans la salle du fond du temple, c'est-à-dire dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient leurs ailes déployées au-dessus de l'emplacement du coffre, de sorte qu'ils formaient une voûte au-dessus du coffre et de ses barres. On avait donné à ces barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à une certaine distance du coffre, sur le devant du sanctuaire intérieur. Mais elles ne se voyaient pas de l'extérieur. Le coffre est resté là jusqu'à ce jour. Dans le coffre, il y avait seulement les deux tablettes que Moïse y avait placées à Horeb lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Les prêtres sortirent du lieu saint. Tous les prêtres présents s'étaient purifiés rituellement, sans tenir compte de l'ordre de passage des classes auxquelles ils appartenaient. Tous les Lévites qui étaient musiciens se tenaient au complet du côté est de l'autel avec des cymbales, des luths et des lyres. Il y avait là Asaph, Heman, Yedutun, avec leurs fils et les membres de leur parenté, tous revêtus de fin lin. 120 prêtres se tenaient à leur côté en sonnant des trompettes. Les trompettistes et les musiciens jouèrent ensemble, à l'unisson, pour louer et célébrer l'Éternel. Les musiciens firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et louèrent l'Éternel en chantant. Car il est bon, car son amour dure à toujours. Au même moment, le temple de l'Éternel fut rempli d'une nuée. Les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service à cause de cette nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait le temple.
Amen. Voilà, Salomon a terminé le temple. Au juste, c'est pas lui qui l'a construit, bien sûr, c'est toute son équipe, mais c'est lui qui est à la tête. Et voilà que c'est la fête, c'est la joie. Mais il manquait quelque chose dans le temple. Et une chose qui est importante. Ils n'avaient pas encore placé dans le temple l'arche. Alors, quelques paroles sur l'arche. Je ne vais pas rentrer tout en détail, mais juste quelques paroles. L'arche, c'était un coffre d'environ 1,15 m de long. Sur 70 cm de large et 70 cm de hauteur. Il était en bois et bien sûr recouvert à l'intérieur comme à l'extérieur de l'or. Il y avait sur le côté deux anneaux qu'on passait deux barres. Également, ces barres étaient recouvertes d'or pour transporter l'arche. Et à l'intérieur de l'arche, il y avait les deux tables de pierre, les deux tables de pierre de la loi. C'est vrai qu'on a parlé aussi d'autres textes, qu'il y avait également le bâton d'Aaron et un vase rempli de manne. Mais ici, on nous parle qu'il n'y avait que les deux tables. C'est important de le souligner. Il n'y avait que les deux tables de pierre. Certainement, ces choses étaient là aussi, dans le lieu très saint, mais peut-être juste en face. Mais à l'intérieur de l'arche, il n'y avait que les deux tables de pierre. Voilà que le temple est terminé et l'arche va entrer. Bien sûr, il y a une chose qu'il faut remarquer, et qui est important pour moi, c'est que c'est le désir de Salomon de faire rentrer l'arche dans le temple. L'arche pouvait rester dans le tabernacle, mais il prend tout pour faire rentrer ça dans le temple. Et il y avait énormément de monde dans les rues. C'était la fête. On louait Dieu en disant « Dieu est bon, sa bienveillance dure à 12 jours. » Voilà, la promesse de Dieu, elle va s'accomplir. Cette promesse d'Exode au chapitre 29, verset 45. « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. » Une fois que l'arche est entrée dans le temple, il est dit que les sacrificateurs ne purent pas rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Comme je vous l'ai dit, à l'intérieur de l'arche, il y avait ces deux tables, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Qui veut dire quoi, la parole de Dieu? Ben, tout simplement, la présence de Dieu. Et la nuée qui était là, elle montrait que Dieu était vraiment là. Cette nuée qui était visible montrait vraiment que Dieu était présent. La gloire de Dieu était là. Sa parole était là. Sa présence était là. Alors, j'aime bien me poser des questions en moi-même. Et je me suis dit, voilà que le temple est terminé. Et Salomon se dit en lui-même, ben, je ne fais pas rentrer l'arche dans le temple. Ça fait quoi si l'arche n'était pas dans le temple? Ça aurait fait toujours un beau bâtiment avec de l'or à l'intérieur, les meilleures pierres, les meilleurs bois, un beau bâtiment. Mais il manquait le plus important. C'était la présence de Dieu dans le temple. La présence de Dieu dans le temple. Et je pense vraiment à notre vie, chacun de nous. On a fini de travailler, voilà que c'est les vacances, c'est la fête. On finit l'école, c'est la fête, nous sommes dans la joie. On finit notre carrière de travail, c'est la fête, c'est la joie. On finit nos travaux dans la maison, c'est la fête. Nous sommes heureux, c'est un soulagement, il y a même des cris de joie. Nous sommes heureux. Mais aussi vite, on remarque que dans notre vie, il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans notre vie. Il manque l'arche de Dieu dans ma vie, la présence de Dieu dans ma vie. Je me souviens quand je ne connaissais pas le Seigneur, je crois que c'est à partir de 18 ans. C'était la fête, c'était le travail, c'était les sorties, bien sûr, tout. Mais quand je rentrais au soir dans ma chambre, il y avait des pleurs. Je me disais, mais c'est ça la vie. Il manquait quelque chose dans ma vie. Il manquait quelque chose dans ma vie. Plus tard, j'ai réalisé qu'il manquait Dieu dans ma vie. On peut terminer beaucoup de choses dans notre vie. Si l'arche de Dieu n'est pas dans notre vie, c'est une vie sans espérance, sans but. C'est une vie sans Dieu, et une vie sans Dieu, c'est la mort. Bien sûr, on va tous mourir, mais je parle de la mort spirituelle, sans espérance. Est-ce que moi, j'ai le désir, comme Salomon, de faire entrer l'arche dans ma vie? Ce coffre n'était pas grand, mais à l'intérieur, il y avait la présence de Dieu. Notre cœur n'est pas grand, mais la présence de Dieu peut rentrer. C'est Dieu qui le fait, si on a ce désir-là. Si je dis oui, Seigneur, entre dans ma vie. Il n'y a que deux points. Ça, c'était le premier point. Je pense vraiment que c'est la chose la plus importante dans la vie. Si l'arche de Dieu n'est pas dans ta vie, c'est la mort. Est-ce que j'ai ce désir-là? Est-ce que l'arche de Dieu est dans ta vie? Voilà pour le premier point. Deuxième point. c'est que nous voyons que les sacrificateurs, les prêtres, ne pouvaient pas rester à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait toute la maison de Dieu. Les sacrificateurs avaient fait des sacrifices. On voit qu'ils avaient fait des sacrifices de brebis, des bœufs, pour transporter l'arche dans le temple. Et voilà qu'ils allaient maintenant accomplir le service qui était cette bassine remplie de sang pour leurs péchés, mais aussi pour les péchés du peuple. Et il est dit que ils n'ont pas pu rester. Ils n'ont pas pu rester. Parce que Dieu était là. Et parfois on oublie que Dieu est un Dieu de saints. Saints, saints. Il était présent. Mais Dieu n'a pas laissé les choses comme ça. Dieu a fait quelque chose de magnifique. Et c'est ça mon deuxième point, qu'on puisse réaliser dans notre vie ce que Dieu a fait. C'est quelque chose d'extraordinaire, un miracle extraordinaire, une grâce extraordinaire. Nous voyons dans Jean 1, au verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 11, je saute. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 14, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole s'est faite chair. Une chose extraordinaire. Les personnes qui étaient là au temps de Jésus, tous n'ont pas compris que Dieu était présent parmi eux. Les sacrificateurs ne pouvaient pas rester dans la présence de Dieu. Et ici, Dieu est présent et les personnes n'ont pas reconnu cela. Peut-être une nuée qui était là, ils auraient peut-être reconnu. Mais la personne en lui-même, que Dieu était là, en présence, ils ne l'ont pas reconnu. Même ses disciples ont eu du mal à comprendre. Philippe dit à Jésus, « Monte-nous le Père, cela nous suffit. » Et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus était présent, qui veut dire Dieu était présent là parmi eux. Et sa gloire remplissait également tous les lieux où Jésus passait. Sa gloire, sa présence. Cette gloire qui était là dans la maison, dans le temple, elle était encore là, partout où Jésus passait. Quelque chose d'extraordinaire. Les sacrificateurs n'ont pas pu rester devant la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans Jean, au chapitre 14, verset 23, Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui. » Le Père, le Fils, vient habiter en nous. l'arche de Dieu en nous. Quel privilège que nous avons. Encore plus grand que les prêtres, que les sacrificateurs. Nous avons ce privilège. Hébreux au chapitre 3, versets 5 et 6. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Et il dit, nous sommes sa maison. Nous sommes sa maison. Nous sommes la maison de Dieu. À l'époque, dans le temple, c'était une place où Dieu rencontre son peuple pour l'adoration, pour les sacrifices, pour les péchés, etc. Aujourd'hui, tout se fait dans notre cœur. Tout cela se fait dans notre cœur. Et je vais dire ce matin, et on l'a annoncé ce matin, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nos péchés. Ce sang, cette bassine, ils n'ont pas pu le faire. Jésus, là, verse son sang juste, qui nous justifie de tous nos péchés. Grâce à sa mort et à sa résurrection, nous sommes la maison de Dieu. C'est lors de la résurrection que les disciples ont compris que Jésus était le temple de Dieu. Pour comprendre cela, il faut recevoir Jésus-Christ dans notre cœur. Alors, on entend souvent dire, est-ce que Dieu est réellement en moi? Est-ce que la présence de Dieu est réellement en moi? Je veux te dire oui. Et bien sûr, tu vas me dire, mais comment on le sait? Ben, c'est Dieu lui-même qui te le dit dans ton cœur que tu es enfant de Dieu. Il nous donne une nouvelle direction. Tu ne veux plus faire les mêmes choses qu'avant. Parce que l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu est en toi. Il te donne une nouvelle direction. Je me souviens quand j'ai fait ce premier pas, mais tout a changé. Tout a changé. Quand je pêche, maintenant, je réalise que je pêche, que j'ai besoin de demander pardon, qu'avant, quand je péchais, c'était normal, il n'y avait rien. Mais maintenant, je réalise que je pêche. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous le dit. La présence de Dieu dans notre vie, on en vit, et c'est lui-même qui nous donne ce désir de vivre comme le Christ. Comme le Christ. Il nous donne une nouvelle capacité. Et Satan veut nous dire qu'il est impossible de changer. Il a raison, mais il a tort. Parce que c'est Dieu qui nous donne cette nouvelle capacité en nous. C'est lui qui va nous donner cette force de dire non au péché. Satan nous dit aussi, mais si Dieu est présent dans ta vie, on en a parlé ce matin, alors pourquoi tu souffres? Pourquoi tu souffres? Spurgeon nous dit que le chrétien continue toujours à souffrir, même si nous sommes nés de nouveau, mais notre corps n'est pas né de nouveau. Il doit mourir. On va continuer à souffrir. C'est tout à fait normal. Mais l'Esprit qui est en nous, la présence de Dieu en nous, veut nous fortifier et nous encourager qu'un jour Jésus reviendra nous chercher. L'Esprit en nous vient aussi nous corriger. Nous sommes les uns les autres la maison de Dieu. Alors, ces deux points, est-ce que j'ai dit oui à Dieu de entrer dans ma vie? Est-ce que je réalise en moi que je suis la maison de Dieu et que la gloire de Dieu est tous les jours avec moi, là où je vais? Alors, cette semaine, pourquoi pas, comme ces sacrificateurs, ils ont porté l'arche au temple. Pourquoi pas nous, mes frères et sœurs, de porter cette parole aux uns et aux autres. Ceux qui sont alentour de nous, ils verront la gloire de Dieu. Ils verront cette nuée de Dieu. Nous sommes effectivement les sacrificateurs. Allons avec la force de Dieu de porter cette parole. Que Dieu nous aide. Amen.